Vous êtes sur RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Et on retrouve tout de suite le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité de la matinale d'RTL, qui répond désormais à vos questions. Vous nous appelez au standard au 3210 et immédiatement, monsieur le ministre, nous donnons la parole à Bernard, qui est retraité, qui nous appelle de Poissy dans les Yvelines. Bonjour Bernard, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vous écoute.
Oui, bonjour Yves, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour Bernard.
Je vous appelle concernant la hausse impopulaire de la CSG pour les retraités depuis le mois de janvier. Allez-vous la supprimer totalement ?
Je vais vous décevoir, Bernard, mais ma réponse sera non. Pourquoi ? Parce que la hausse de la CSG, c'est ce qui permet de financer l'augmentation des salaires nets de tous ceux qui travaillent. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, notre priorité absolue, c'est que tous ceux qui travaillent puissent vivre dignement de leur travail. Donc j'ai parfaitement conscience de l'effort important qui a été demandé aux retraités. C'est un effort très important. Mais il a du sens, cet effort. C'est mieux rémunérer ceux qui travaillent, ceux qui sont obligés de faire des kilomètres chaque jour pour se rendre sur leur lieu de travail et qui ont besoin d'avoir des salaires nets plus élevés, une feuille de paye plus importante à la fin du mois.
Et cela ne peut se faire qu'au détriment des retraités, monsieur le ministre.
Mais ce qui peut être fait en revanche, et j'y suis totalement ouvert, c'est l'accélération de la baisse des impôts. Moi, je souhaite que nous accélérions la baisse des impôts et la baisse des taxes en France. Et pour cela, que nous regardions tous ensemble quelles sont les dépenses publiques que nous pouvons baisser. Nous allons avoir un débat pendant plusieurs mois. Il doit nous permettre de faire ce choix de société. Quelles dépenses est-ce que nous baissons ? Quelles dépenses publiques dans l'État et ailleurs pour que nous puissions accélérer la baisse des impôts et la baisse des taxes ? Moi, je souhaite que nous accélérions cette baisse des taxes et des impôts pour tous les Français.
Donc, mais s'il y a une baisse des dépenses publiques ?
Mais uniquement s'il y a une baisse des dépenses publiques.
Donc moins de services publics ?
Sinon, ça veut dire que nous laissons une dette à nos enfants qu'il faut bien rembourser à un moment ou un autre. Il ne peut y avoir de baisse solide, durable, profonde des impôts et des taxes que s'il y a dans le même temps une baisse solide, profonde et durable de la dépense publique. Ça ne veut pas dire forcément moins de services publics, ça veut dire des choix de société qui peuvent être différents et dont il faut que nous discutions dans les mois qui viennent.
Et les impôts, nous allons continuer d'en parler avec Jean. Bernard, j'ai bien compris que vous ne deviez pas être satisfait de la réponse du ministre, mais en tout cas, elle a été claire. Bonjour Jean, vous êtes conseiller en insertion professionnelle, vous nous appelez d'Aix-en-Provence et nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur le Ministre et bonjour Monsieur Calvi. Moi je voulais juste rappeler que en octobre 2016, Monsieur le Ministre, vous étiez pour la suppression de l'ISF pour les petits boulots des gens aux minima sociaux à 5 euros de l'heure, pour la baisse des allocations chômage, et que vous disiez que Monsieur Macron était un homme sans projet qui avait une idéologie qui avait planté la France.
Je précise que c'était pendant la campagne électorale, pour que nos auditeurs comprennent bien. Voilà les propos alors du ministre actuel.
Voilà. Aujourd'hui, Monsieur le Maire, depuis hier, vous êtes allé dans les beaux quartiers parisiens, vous nous dites en partie le contraire de ce que vous avez pensé. Alors moi, aujourd'hui, ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous avez compris de la situation des Françaises et des Français depuis 2 ans? Et qu'est-ce que vous allez faire, et notamment concernant la suppression de... revenir sur la suppression de l'ISF.
On va voir si vous êtes un bon boxeur après cet uppercut.
Jean, je vais vous renvoyer le même uppercut. J'étais favorable à la suppression de l'ISF et effectivement, je l'ai supprimé. Parce que je pense qu'il faut impérativement redonner de l'argent à nos entreprises et réindustrialiser le pays. Et vous ne réindustrialiserez pas le pays, vous ne créerez pas des emplois industriels si vous n'avez pas de l'argent et du capital pour ces entreprises. Mais vous m'interrogez sur le diagnostic sur la France.
Plus large.
Ça fait des années que je sillonne la France. Et rassurez-vous, Jean, pas que des beaux quartiers. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. Je suis allé dans tous les cantons de France. Ça a été toujours mon plaisir et mon honneur d'aller partout en France. Il y a trop d'impôts. Il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de dettes, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'usines. Et je suis convaincu que la politique que nous mettons en œuvre, elle doit nous permettre de retrouver de la prospérité pour tous les Français. Il n'y a pas de prospérité, Jean, dans la dette. Il n'y a pas de prospérité dans toujours plus de dépenses publiques. Et il n'y a pas de prospérité dans le chômage. Moi, ce que je constate, c'est que depuis 18 mois, le chômage a baissé. Pas assez vite, mais il a commencé à baisser. La rémunération de ceux qui travaillent, dans les entreprises, dans les PME, elle a commencé à augmenter. Pas assez vite, certainement. En revanche, les impôts, eux, ils doivent baisser plus vite. Ça, c'est vrai. Et pour ça, ça suppose que nous baissions aussi la dépense publique. Mais c'est ça mon regard sur la société française. Elle a tous les atouts. Mais aujourd'hui, il faut que nous nous mettions d'accord ensemble sur la manière dont nous réduisons la dépense, les impôts et que nous créons du travail pour tous.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que pour l'instant, vous ne nous avez pas expliqué où se feront les baisses de dépenses publiques, mais c'est sans doute un
débat
qui est à venir.
J'ai plein d'idées, Yves Calvi, mais je pense que ces idées, elles ne doivent pas venir nécessairement d'en haut, elles doivent être partagées avec tous ceux qui sont aujourd'hui les financeurs de la dépense publique, c'est-à-dire les contribuables.
Bonjour Lisanne, vous nous appelez de Bourg-en-Bresse. Merci, nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Alors justement, Monsieur le Ministre, au vu de ce que vous venez de nous dire, moi j'aimerais savoir pourquoi depuis au moins 30 ans, tous les gouvernements successifs laissent travailler la Cour des comptes sur les économies à faire dans notre pays, et il n'y en a aucun qui se sert des rapports. Je vous donne deux exemples.
Oui.
On a parlé à une époque des hauts fonctionnaires d'État, de peut-être redimensionner justement les hauts fonctionnaires d'État et peut-être de les déplacer. On a parlé aussi du Conseil économique et social, qui devait au moins être limité, voire à mon goût supprimé, mais c'est un goût très personnel. Et je ne comprends pas pourquoi on ne lit jamais ces... Enfin, on les lit, vous les lisez, effectivement. On en parle pendant une ou deux journées. Et puis jamais on a de retour sur ce que fait la Cour des comptes.
Le ministre vous répond en fait sur les préconisations régulières faites par la Cour des comptes et qui sont en effet très peu suivies.
Eh bien, je partage à 1000%. Je partage à 1000% ce que vous venez de dire. Je pense qu'il est impératif de suivre davantage les recommandations de la Cour des comptes.
Et alors on commence quand,
sur
monsieur le
regarder les hauts fonctionnaires. Moi, j'ai proposé que tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique démissionnent de la fonction publique. J'ai démissionné de la fonction publique, ça devrait être une règle. Les hauts fonctionnaires qui sortent de l'ENA, ils doivent être affectés non pas là où ils le choisissent, mais là où les administrations, notamment territoriales, ont besoin d'eux. Vous parlez de la réduction des élus. Moi, je pense qu'il y a trop d'élus départementaux. Trop d'élus régionaux, trop d'élus nationaux. Et d'ailleurs, la réforme institutionnelle qu'avait proposée le président de la République visait à les réduire. Ça fait partie des recommandations. Suivons cette recommandation.
On peut diminuer, pardonnez-moi, le nombre d'élus que vous venez, parce que là, à tous les échelons, vous l'avez donné, nationaux, départementaux, régionaux.
Bien sûr.
Et continuer à représenter le pays.
Mais bien sûr, vous pensez que les millions de Français qui aujourd'hui manifestent se sentent bien représentés? Moi, je suis pour qu'il y ait des assemblées citoyennes. Je suis pour qu'à un moment donné, on puisse même aller jusqu'au tirage au sort. Au niveau local.
Avec de la proportionnelle, mais plus que prévu.
Sur les élections nationales, je pense qu'il est nécessaire d'introduire une dose de proportionnelle. Mais je vais plus loin que vous, Elisabeth Martichoux. Je pense que si à un moment donné, il faut qu'il y ait des assemblées citoyennes, peut-être par tirage au sort, pour que des citoyens qui ne se sentent pas représentés du tout aujourd'hui, au niveau local, puissent participer aux décisions, j'y suis favorable. Enfin, comprenons bien, j'ai dit crise sociale, j'ai dit crise nationale, j'ai aussi dit crise démocratique. Il y a des millions de Français qui ne se sentent pas représentés aujourd'hui. Et n'oublions pas, toute dernière remarque, une des racines de cette crise, c'est aussi la manière dont on a bafoué le vote de 2005, où une majorité de Français, à laquelle pourtant je n'appartenais pas, ont dit non à une certaine Europe et on la leur a imposée ensuite. Tenons compte de cela aussi.
Et après Lisanne, c'est Claudine qui vous interroge. Elle est chargée d'affaires, elle nous appelle du département de Saône-et-Loire. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour Escavi, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour.
Bonjour à tous. Alors moi, je vous appelais par rapport au ras-le-bol fiscal qui s'exprime en ce moment en France. Personnellement, j'ai remarqué qu'on a quand même de plus en plus de prélèvements obligatoires au niveau des impôts, des taxes et autres. Et on constate parallèlement que les services publics se dégradent, que ce soit l'éducation nationale, la santé, l'armée. Et j'ai quand même vraiment une grosse interrogation, et je pense qu'on est énormément de Français à se la poser. C'est où vont nos impôts? Voilà. Vous parlez de faire encore baisser les dépenses publiques. Alors déjà, le secteur du médical, l'éducation nationale, il y a beaucoup de secteurs où ça va très mal. Baisser les dépenses publiques, OK, pour éviter que les Français aient beaucoup d'impôts à payer. Mais le problème, c'est que actuellement, nos impôts vont où?
Claudine s'interroge sur la hausse de nos prélèvements obligatoires et la baisse, selon elle, de la qualité de nos services publics.
Je crois que c'est une interrogation de Claudine, c'est l'interrogation de tous les Français. Où va notre argent? À quoi sert-il? Et je vous remercie, Claudine, parce que je pense que vous mettez le doigt sur un des points clés de la cohésion de notre nation et du consentement à l'impôt. La première chose à laquelle je suis tout à fait ouvert comme ministre des Finances, c'est la transparence totale. Que nous disions de manière beaucoup plus claire, voilà ce que vous payez, voilà où va l'argent de votre impôt. Et je souhaite qu'on trouve les moyens d'avoir une transparence non seulement totale, mais compréhensible, accessible à tout le monde, pas une batterie de tableaux et de chiffres absolument illisibles, mais avec beaucoup de simplicité, dire voilà où va votre argent.
Oui.
Hôpitaux, crèches, écoles, services publics, armées, et ainsi de suite. En deuxième lieu, une fois qu'on aura fait cet exercice de transparence, qu'on remette à plat les grands choix qui sont faits par la nation en matière d'impôts. Quelles sont les dépenses publiques que vous estimez inutiles, superfétatoires, que nous pourrions supprimer pour pouvoir faire baisser vos impôts? Là aussi, je suis ouvert à cette idée-là, et je pense que le grand débat que nous allons avoir sur les finances publiques doit nous permettre de décider ensemble, Claudine, quelles sont les dépenses publiques vraiment nécessaires et quelles sont celles auxquelles nous sommes prêts à renoncer pour pouvoir faire baisser vos impôts et vos taxes. Mais aujourd'hui, c'est un maquis qui est devenu illisible, et parce que c'est illisible, c'est considéré comme injuste et inefficace.
Le maquis illisible, il est beaucoup dû à la maison que vous dirigez aujourd'hui et qui s'appelle Bercy. Hein. Donc c'est non, d'abord à Bercy qu'on doit demander de faire des efforts.
À chaque fois, Bercy est le bouc émissaire facile de choix politiques, collectifs, dont nous sommes tous responsables. Parce que les impôts, c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi les taxes qui sont imposées ici ou là, c'est aussi la sécurité sociale, ce n'est pas que Bercy. Permettez-moi de défendre
les petits
mon administration.
Bercy. Bah oui, ça, c'est, vous êtes là pour la défendre, je ne vous dis pas le contraire. Alors, deux questions parvenues sur le site rtl.fr. Elisabeth qui nous dit, monsieur, vous êtes désormais déconnecté de la réalité, pourriez-vous vivre avec 1200 euros par mois? Ça, sur la question du pouvoir d'achat des Français en lien avec leur gain. Et pourquoi ne pas baisser la TVA, vous demande Irène par ailleurs. Cela concernerait un maximum de monde. Donc TVA et 1200 euros par mois, comment on fait pour s'en sortir?
D'abord, je n'ai jamais dit qu'on s'en sortait facilement avec 1200 euros par mois. Le SMIC, il va passer à 1210 euros net par mois à partir du 1er janvier. Ça ne fait pas lourd pour financer son logement, sa nourriture, ses déplacements. J'en ai parfaitement conscience. Il n'y a pas de déconnexion. Je suis élu territorial.
Oui.
Je rencontre les Français tous les jours. Je suis père de famille, j'ai une famille, je sais ce que c'est qu'avoir des dépenses, financer son logement, financer ses déplacements. Nous sommes tous dans cette situation. Ne montons pas les Français les uns contre les autres, je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
La
si on peut augmenter ce salaire de 1200 euros par de l'intéressement, par des primes, par de la prime d'activité, par tous les dispositifs possibles, j'y suis favorable.
Pas de
si
prime,
on peut accélérer...
Obligatoire pour les entreprises, elle sera
obligatoire
volontaire.
Pour les entreprises, et bête Martichoux, ça veut dire que vous allez imposer à une entreprise qui aurait fait des résultats absolument catastrophiques à la fin de l'année, une prime obligatoire qu'elle n'aura pas les moyens de payer, au risque de menacer sa survie. Moi, je ne suis pas favorable à une prime obligatoire qui pourrait menacer des PME, des commerçants, des artisans, mais je souhaite que la prime soit la plus généreuse possible, là où les entreprises peuvent le faire.
Baisse sur de la TVA, dont je rappelle qu'elle est l'impôt en effet le plus injuste, mais en même temps le plus efficace.
C'est l'impôt le plus efficace, oui. Mais à partir du moment où on ouvre ce débat sur les finances publiques, on ne va pas exclure un impôt d'emblée. Moi, je suis prêt à regarder tous les impôts avec un cap qui est clair. Regardons où nous allons baisser la dépense publique pour pouvoir baisser les impôts et nous choisirons ensemble les impôts qu'il faut baisser le plus vite possible.
Une toute dernière question, elle vous est posée par Philippe qui nous appelle du département de la Moselle. Elle concerne Ascoval. Il se trouve que vous avez une réunion normalement très importante aujourd'hui. On va écouter Philippe à qui je demande d'être le plus concis possible.
Oui, bonjour Yves, bonjour Monsieur le Ministre. Il semblerait que le tribunal de commerce de Strasbourg va se prononcer cette semaine sur le projet de reprise d'Ascoval. Moi, j'ai entendu parler de 147 millions d'investissements avec une quote-part de l'État. J'aurais voulu savoir quelle était la quote-part de l'État et de la région. Et qu'est-ce que vous pensez de cette dépense, qui est une dépense publique supplémentaire, par rapport à la sauvegarde des 200 emplois en question?
En effet. Oui, c'est une dépense publique supplémentaire, mais c'est pour l'emploi et c'est pour l'industrie. Donc je suis prêt à la faire. Et l'État mettra exactement, comme il s'y est engagé, le montant que le repreneur Altifort est prêt à mettre. Si Altifort met 25 millions d'euros d'investissement, ben l'État mettra en face 25 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, on a un repreneur, Altifort. Il reste à boucler le plan de financement. Je pense que nous allons pouvoir boucler ce plan de financement aujourd'hui avec les repreneurs et avec l'ensemble des élus locaux, représentants de la région, représentants du département, de la communauté de communes, qui vont participer à la réunion que j'anime aujourd'hui au ministère des Finances. Si nous bouclons aujourd'hui le plan de financement, nous le présenterons au tribunal de commerce de Strasbourg et la reprise d'Altifort pourra avoir lieu. La reprise d'Ascoval pourra avoir lieu par Altifort. Tous les jours, je me suis battu sur Ascoval. Tous les jours. J'y suis allé. J'ai rencontré les ouvriers. C'est ma conception du rôle du ministre de l'économie. Créer un cadre favorable à la création d'emplois et à la prospérité, mais tendre la main aussi à tous ceux qui sont dans la difficulté et qui attendent de l'État qu'il leur apporte des solutions.
Merci Bruno Le Maire d'être venu répondre aux questions des auditeurs d'RTL.